Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La République tchèque reste en récession. Une nouvelle contraction du PIB a été enregistrée au troisième trimestre. Les pilotes de CSA acceptent le gel de leur salaire et une réduction de leurs jours de repos. En tennis, Radek Štěpánek et David Ferrer ouvriront la centième finale de la Coupe Davis vendredi à Prague. Pour le cinquième trimestre consécutif, la République tchèque a enregistré une contraction de sa croissance économique entre juillet et septembre dernier. Selon les chiffres communiqués ce jeudi par l'Office tchèque des statistiques, le PIB a connu une baisse de sa croissance de 0,3% par rapport au deuxième trimestre. Il s'agit également d'une contraction de moins 1,5% par rapport à l'année dernière. Jamais depuis 16 ans, l'économie tchèque ne s'était trouvée dans une situation si préoccupante. La faible demande, marquée notamment par une baisse des investissements dans le bâtiment, la production industrielle et les transports, ainsi que la faible consommation des ménages, est à l'origine de cette récession. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muchnieck, vient d'effectuer une visite en République tchèque. L'objectif de celle-ci était d'évaluer la situation des droits de l'homme des Roms et des personnes handicapées. Ce jeudi, le commissaire a rencontré le premier ministre tchèque Petr Nečas. Ce dernier a présenté à Nils Muchnieck le plan national d'intégration scolaire qui prévoit une assistance aux enfants issus de milieux défavorisés, notamment d'enfants Roms placés jusqu'à présent dans des écoles dites spéciales et destinée aux enfants handicapés. Une réduction du nombre de ces écoles spéciales est également prévue par l'État tchèque. Les Vietnamiens de République tchèque demandent à obtenir le statut de minorité nationale officielle. L'Union des Vietnamiens en République tchèque et l'Association des citoyens tchèques d'origine vietnamienne ont adressé une demande auprès du gouvernement afin d'obtenir un représentant au sein du Conseil gouvernemental pour les minorités. La communauté vietnamienne est la troisième plus importante en République tchèque après les Ukrainiens et les Slovaques. Les Biélorusses, eux aussi, souhaitent être représentés au sein du Conseil gouvernemental pour les minorités. Ce dernier a examiné les deux demandes la semaine dernière et, d'après la chargée gouvernementale des droits de l'homme, il serait prêt à accueillir les deux nouveaux membres. Les changements au sein du Conseil doivent toutefois être approuvés par le gouvernement. Les pilotes de CSA, Czech Airlines, ont accepté une réduction de leurs jours de repos ainsi qu'un gel de leur salaire pour 2013. L'association syndicale des pilotes de transport a fait savoir ce jeudi qu'elle s'était entendue sur ces deux points avec la direction de la compagnie aérienne publique tchèque. En échange, les pilotes ont obtenu une garantie d'emploi pour les pilotes les plus anciens. Cela signifie que ce sont les derniers embauchés qui seront licenciés en priorité en cas de nécessité. Les pilotes ne bénéficieront donc plus que de 103 jours de repos à partir de l'année prochaine, contre 120 actuellement. Cette prolongation du temps de travail des 250 pilotes que compte actuellement la compagnie est une réaction à la situation économique très critique de celle-ci, qui enregistre d'importantes pertes depuis 2008. Le Tchèque Radek Štěpánek et l'Espagnol David Ferrer seront opposés dans le premier simple de la finale de la 100e édition de la Coupe Davis, disputée de vendredi à dimanche à Prague, suite au tirage au sort effectué ce jeudi. Le duel entre Štěpánek, numéro 37 mondial, et Ferrer, numéro 5 mondial et numéro 1 de l'équipe d'Espagne, détentrice du trophée en l'absence de Rafael Nadal, s'ouvrira vendredi à 16h sur la surface dure de l'Arène de Prague. Côté météo, c'est un temps couvert qui régnera sur une majeure partie du territoire vendredi, jour de la fête des Otmar. Des éclaircies sont annoncées à la montagne, dans le nord de la Bohême et de la Moravie. Les températures sont en baisse et varient entre 0 et 4 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Magda pour son bulletin d'information. Un rapport de la Commission européenne critique les politiciens tchèques pour leur mauvaise gestion de l'administration publique. Les détails dans quelques instants. À la veille de la Coupe Davis qui opposera la République tchèque à l'Espagne à Prague, tour d'horizon des chances tchèques pour ce match important. Tourisme, ensuite on ira à Děčín, dans le nord de la Bohême. Bonne écoute de ce programme. « La radio tchèque a dévoilé mercredi un rapport de la Commission européenne critiquant rondement les hommes politiques tchèques pour leur mauvaise gestion de l'administration publique. Il s'agit de l'une des raisons aux nombreux gels de subventions européennes décidées par Bruxelles courant 2011. La Commission pointe notamment du doigt la tendance lourde des nouveaux gouvernements à remplacer une grande partie du personnel des administrations par des personnes qui leur sont proches. Pierre Maignan.
La Commission européenne a réalisé des rapports concernant tous les pays membres en vue d'évaluer la gestion future des fonds structurels européens pour la période 2014-2020. La République tchèque n'est pas épargnée, elle qui s'est vue refuser le versement de plusieurs millions d'euros dans le cadre de programmes opérationnels concernant notamment les transports ou l'environnement, et ce tant à l'échelle nationale que régionale. La République tchèque ne parviendrait pas à optimiser ses fonds et de nombreuses affaires de corruption planent autour de leur gestion. La dernière condamnation en date remontant à juillet dernier et concernant la région d'Oustina Labem, dont certaines autorités semblent être passées maîtres dans l'art de détourner cet argent. Les subventions européennes des programmes opérationnels déjà cités ont repris fin octobre, mais les critiques européennes persistent. Et le commissaire européen pour la politique régionale, l'Autrichien Johannes Hahn, interrogé par la radio tchèque, énonce les domaines dans lesquels les autorités tchèques devraient selon lui concentrer leurs efforts.
La République tchèque, comme les autres pays, devrait bien sûr insister sur la compétitivité de l'économie, sur le système d'innovation, mais également sur les infrastructures classiques pour lesquelles il est nécessaire de poursuivre les investissements. Le système éducatif demande à être amélioré, mais nous devons aussi nous attaquer à des structures administratives qui restent faibles.
Et le point qui fâche principalement la Commission européenne concerne l'importante rotation de l'emploi qui affecte l'efficacité des administrations. Concrètement, les nouvelles majorités politiques remplaceraient systématiquement le personnel des services de l'État par des individus de leur bord politique. Carolina Pick, présidente de la plus petite formation du gouvernement, le parti LIDEM, ne dit pas autre chose.
Il n'y a pas de ligne clairement établie entre les personnes nommées sur des critères politiques, dont tel ou tel ministère, et le personnel qui doit rester pour assurer une continuité, même en cas d'alternance politique. Il n'est vraiment pas utile que chaque nouveau ministre remplace tous les agents d'entretien, les concierges, jusqu'au directeur de cabinet.
Le gouvernement prépare une loi sur le sujet, mais certaines critiques rapportées par la radio tchèque considèrent que le texte envisagé devrait tenter de dépolitiser les administrations, ce qu'il ne ferait pas. Jan Rovensky, le président de l'Union intersyndicale des organes et organisations d'État, estime pour sa part que les politiciens sont effectivement incompétents en ce qui concerne la gestion administrative d'un cabinet ministériel.
D'abord, ils ne sont pas capables de gérer les subventions européennes et ensuite, il y a une méconnaissance du milieu des organes d'État et des problèmes qui les affectent. Ils peuvent également être influencés par quelques employés et cela mène à une baisse globale de la qualité de fonctionnement des administrations d'État.
Un point de vue partagé par la Commission européenne, qui regrette également que les administrations tchèques soient souvent en peine d'établir les demandes de subventions européennes adéquates. De plus, les autorités chargées de sélectionner les projets susceptibles d'acquérir des fonds européens étaient encore récemment liées au processus de distribution de cet argent, une source potentielle évidente de conflits d'intérêts. Un problème qui semble cependant avoir été réglé, puisque c'est désormais le ministère des Finances qui sera en charge de cette sélection préalable.
Deux semaines après la victoire des filles contre la Serbie en finale de la Fed Cup, les amateurs tchèques de tennis remettent le couvert. Comme il y a 3 ans, la République tchèque et l'Espagne s'affrontent en effet en finale de la Coupe Davis à partir de ce vendredi. Mais à la différence de 2009, où ils avaient été lourdement battus 0-5 à Barcelone, c'est cette fois à Prague et sur une surface autrement plus rapide que la terre battue que Tomáš Berdych et Radek Štěpánek défendront leur chance. Et fort de cet avantage, les Tchèques entendent bien remporter le premier saladier d'argent depuis la Tchécoslovaquie d'Ivan Lendl en 1980. Guillaume Larguet.
Cela fait désormais 32 ans que les Tchèques attendent de gagner une nouvelle Coupe Davis. Et cette finale contre une Espagne privée de Rafael Nadal, insuffisamment remis de sa blessure au genou, s'annonce probablement comme une de leurs dernières chances de victoire avant peut-être de nombreuses autres années. À 34 ans, Radek Štěpánek ne rajeunira en effet désormais plus beaucoup. Et mis à part Tomáš Berdych, le très irrégulier Lukáš Rosol, tombeur surprise de Nadal lors du dernier Wimbledon, est le seul Tchèque figurant parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux actuellement à la 71e place. Autant dire que la relève ne suit pas et ne laisse que peu d'espoir au public tchèque de revivre des aventures en Coupe Davis semblables à celles de ces dernières années. Vainqueur en 1980 et présent à Prague cette semaine pour assister à la finale, Ivan Lendl sait bien de quoi il parle lorsqu'il évoque cette longue attente.
À l'époque de notre succès, nous pensions bien sûr que nous allions gagner la Coupe 5 fois en suivant. L'histoire a montré que ça n'a pas été le cas. Et 29 ans plus tard, nous n'avons toujours pas gagné d'autres Coupes Davis. Cela prouve combien cela est difficile, mais je pense que disputer 2 finales en 3 ans est déjà une performance fantastique.
Ces 2 finales en 3 ans, auxquelles s'ajoute également une demi-finale perdue de justesse contre la Serbie de Novak Djokovic en 2010, la République tchèque la doit au duo Berdych-Štěpánek. Les deux hommes disputent non seulement tous les matchs de simple, mais forment également une paire de doubles redoutables très souvent gagnantes. Contre l'Espagne et comme souvent en Coupe Davis, le double de samedi pourrait d'ailleurs une nouvelle fois s'avérer décisif. Et Radek Štěpánek, qui disputait justement le Masters de double la semaine dernière à Londres, affirme que match de simple ou match de double, il répondra une nouvelle fois bien présent de vendredi à dimanche.
Pour moi, finale ou pas, il n'y a rien qui change. Avant chaque rencontre de Coupe Davis, je suis prêt à tout donner sur le court. Le plus important est que je me sente en forme. Je n'ai pas d'ennui de santé particulier et ma blessure au genou n'est plus qu'un mauvais souvenir. J'espère que cela durera tout le week-end. En tout cas, je suis prêt à jouer les 3 jours.
Outre le fait de pouvoir compter sur ses 2 meilleurs joueurs dans un état de forme porteur d'espoir, la République tchèque, en tant que pays hôte de la finale, a aussi l'avantage du choix de la surface de jeu. Et dans une O2 Arena qui pourrait vite s'enflammer si Berdych et Štěpánek évoluent au sommet de leur art, c'est bien entendu une surface dure et rapide qui a été choisie par le camp tchèque. Une surface qui, même s'il ne s'en plaint pas, ne plaît guère au numéro 5 mondial, David Ferrer, qui sera le principal atout espagnol.
Toute notre équipe a des problèmes avec ce court. Il est bien plus rapide que les autres courts sur lesquels nous jouons habituellement. Mais cela n'enlève rien à nos chances de victoire. Même dans ces conditions, nous sommes tout à fait en mesure de gagner la finale. Mais il est certain que le choix de la surface avantage plus les Tchèques que nous.
Bref, autant d'éléments qui font dire à Alex Correggia, le capitaine espagnol, que son équipe ne part pas avant cette 100e finale de l'histoire de la Coupe Davis avec la faveur des pronostics.
Je ne sais pas quelles sont nos chances de victoire, mais ce que je sais, c'est que les Tchèques sont favoris. Vous avez plusieurs avantages, le choix de la surface et le soutien du public. Si la finale se disputait en Espagne, les choses seraient sans doute très différentes. Mais à Prague, ce sont les Tchèques qui sont favoris, même si cela n'enlève rien à notre envie de gagner, comme vous vous en doutez.
Avant les 2 premiers simples de vendredi qui opposeront Radek Štěpánek à David Ferrer, puis Tomáš Berdych à Nicolas Almagro, on se doute bien en effet que l'Espagne n'abandonnera pas son titre sans lutter et s'efforcera de ramener le trophée à Madrid pour la 4e fois en 5 ans, quand même.
On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Direction aujourd'hui le château de Děčín, l'un des plus imposants et des plus visités de la région d'Oustinia de la Bohème, dans le nord de la Bohème. Une voie baroque longue de 300 mètres, baptisée la Grande Descente, conduit jusqu'aux portes du château, érigées sur un promontoire qui dévoile toute la vallée de l'Elbe à la frontière avec l'Allemagne. Autre curiosité à l'intérieur du château, le piano sur lequel jouait Frédéric Chopin, qui a composé ici sa valse, connue en République tchèque sous le nom de valse de Děčín. Propriété pendant 300 ans appartement de la famille Thun Hohenstein, qu'il a revendu en 1932 à l'État tchécoslovaque, le château a servi pendant près de 60 ans de caserne pour les armées tchécoslovaques, allemandes puis soviétiques. Depuis 1991, la ville de Děčín poursuit une importante reconstruction grâce à laquelle le château retrouve peu à peu sa beauté d'antan. Petite visite avec Jarka Jisubelova dans ce nouveau magazine touristique de Radio Prague.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Le château de Děčín a failli être détruit après avoir été transformé en caserne, d'abord pour les gardes frontières, ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les officiers de la Wehrmacht et après 1945 à nouveau pour l'armée tchécoslovaque. Après 1968, il a été occupé par l'armée soviétique qui n'a quitté les lieux qu'en 1991. Aucun mobilier d'origine de l'époque des Thun et antérieur n'a été conservé, tout a été pillé. Notre guide Barbara Altnerova commence la visite par un peu d'histoire du site qui remonte au Xe siècle.
Là où se dresse aujourd'hui le château de style baroque et classiciste se trouvait dès 992 un lieu fortifié qui a servi de centre administratif de la province de Děčín et de station sur la route du sel transportée de Saxe en Bohême par l'Elbe. Le château fort médiéval édifié à cet emplacement au XIIIe siècle a été remanié trois siècles plus tard par les seigneurs de Bunau en un château renaissance. S příchodem pánů z Binau, kteří vlastně ten
hrad přestavili do podoby renesančního zámku. En 1628, les seigneurs de Bunau ont été contraints de quitter la Bohème en raison de leur foi et le château est devenu propriété de la famille Thun Hohenstein, originaire du Tyrol du Sud.
La famille Thun a été propriétaire du château de Děčín jusqu'en 1932, où pour des raisons financières, elle l'a vendu à l'État tchèque. Grâce à cette famille, le château a subi deux remaniements importants. Lors de la première étape, qui s'est déroulée à la fin du XVIIe siècle, a vu le jour le jardin de roses, avec une gloriette du haut de laquelle s'ouvre la plus belle vue sur le port fluvial de l'Elbe. À cette même époque a été bâtie la voie d'accès, longue de 292 mètres et large de 10 mètres, la voie baptisée « La grande descente » n'était pas qu'un accès majestueux. En même temps, son rôle était de protéger le château.
Le château doit beaucoup au XVIIIe siècle, où il a reçu une nouvelle façade ainsi qu'une tour d'horloge. Depuis 1991, se poursuit la remise en état des parties endommagées par la présence des armées. L'aile sud, tombée en ruine, permet de se faire une idée de l'apparence du château après le départ des soldats soviétiques. En revanche, trois ailes sont déjà rénovées, l'aile orientale qui accueille les expositions du musée de Děčín, l'aile nord qui est le siège des archives régionales et l'aile ouest qui propose un circuit de visite à travers les grandes salles du château. Barbara Altnerova.
Nous sommes entrés dans le salon de thé. Ce qui attire le plus le regard, ce sont les tableaux. Le salon est rempli de portraits des personnalités célèbres de la famille Thun. Friedrich, diplomate et ambassadeur à Saint-Pétersbourg et à Munich, Léopold Thun, ministre de l'Éducation, ou encore Franz Thun, deux fois gouverneur de Bohême, qui occupa brièvement le poste de ministre-président d'Autriche.
Les tableaux exposés sont tous des originaux. Ils ont été préservés grâce à la clairvoyance des comtes Thun qui, en quittant Děčín, les ont transférés au château voisin de Jílové. Un objet, toutefois, n'a pas été déménagé. Installé dans le salon musical, il est une belle surprise pour les visiteurs.
C'est le piano sur lequel jouait le compositeur Frédéric Chopin lors de ses séjours au château de Děčín. Un lien étroit liait Chopin à la famille Thun. Il a appris le piano à tous les enfants du comte François-Antoine. Pour l'une de ses filles, la jeune comtesse Joséphine, Chopin a même composé sa célèbre grande valse brillante en la bémol majeur, opus 34 numéro 1, appelée également Valse de Děčín.
Salut, D'autres personnalités comme le peintre Joseph Mannes ou le romancier écossais Walter Scott ont aussi séjourné au château de Děčín. Nous continuons notre visite en passant tour à tour par les salles du château. Dans le cabinet de travail des Thunes, nous nous arrêtons devant les portraits de François Antoine qui a fondé à Děčín un établissement d'enseignement agricole et de Maximilien Thun qui a fait construire les écuries du château. Certains tableaux représentent des événements historiques comme celui daté de 1851 sur lequel on voit la mise en service de la première ligne de chemin de fer du Nord qui continuait de Děčín vers Dresde. Des photos datées de 1901 révèlent l'aménagement intérieur des salles qui ne s'est hélas pas conservé. La majeure partie des meubles exposés a été empruntée au château de Sychrov. La plus belle et la plus précieuse des salles du château de Děčín est celle surnommée la salle bleue, explique Barbara Altnerova.
Nous sommes dans la salle bleue qui doit son nom aux fresques de couleur bleue sur les murs. Les restaurateurs ont admirablement réussi à restaurer ces fresques qui sont l'œuvre du peintre baroque pragois injustement tombé dans l'oubli, Jan Hofmann. Elles représentent des motifs antiques, typiques, arcs, colonnes, palais et temples grecs antiques.
Un coup d'œil par les fenêtres d'une autre salle aménagée à l'intérieur de la tour d'horloge dévoile des constructions intéressantes en face et en dessous du château.
Par la fenêtre droite, on aperçoit le pont Tirsch, construit en 1854. L'édifice romantique sur le rocher d'en face, c'est le restaurant panoramique, surnommé Nebichko, le ciel. En regardant par la fenêtre gauche, on peut contempler le cours de l'Elbe, surplombé par un petit pont Renaissance au pied du château. Au-dessus du fleuve, niché dans une forêt, se trouve la chapelle néogothique Saint-Jean-Népomucène, où ont été enterrés jusqu'en 1935 les membres de la famille Thun.
Une autre curiosité attend les visiteurs dans le salon gris du château de Děčín. Il s'agit d'un immense arbre généalogique de la famille Thun. Ses dimensions sont de 4,5 mètres sur 3,5. Dessiné sur toile, il pèse près de 150 kg. Ils sont rassemblés plus de 400 noms des membres de la famille Thun sur 20 générations. Le personnage central en haut au milieu symbolise Rome, dont la famille Thun était originaire. Trois membres de la famille Thun qui sont nés et qui ont vécu au château de Děčín sont toujours en vie, la comtesse Ida, le comte Ferdinand et la comtesse Thérèse, née en 1929. Comme l'observe Barbara Altnerova, ils n'ont pas oublié leur pays d'origine.
Installés à Munich, des représentants de la famille Thun reviennent de temps en temps dans la ville de Děčín, notamment à l'occasion des fêtes et des manifestations solennelles. Ainsi, la comtesse Thérèse a assisté à la nouvelle consécration de la chapelle de l'élévation de la croix, dans laquelle étaient transférées les dépouilles de ses ancêtres. Toujours très attachée au château de Děčín, la famille Thun reste en contact avec son ancienne résidence. Elle aide par exemple à acquérir de nouveaux tableaux pour les collections du château.
Jsou nějak v kontaktu a třeba pomáhají do zámecké sbírky získávat nové obrazy.
Ainsi, grâce à une collecte publique permettant de financer la restauration des tableaux confisqués après 1945, le château de Děčín a pu s'offrir une nouvelle galerie de tableaux exposés dans le hall d'entrée. La restauration des tableaux retrouvés et la recherche du mobilier d'origine est aussi au cœur d'un projet de collaboration transfrontalière tchéco-saxon entre les châteaux de Děčín et de Wessenstein.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Podcastez-nous, écoutez-nous en streaming, lisez-nous. Tous nos sujets, évidemment, vous pouvez les retrouver sur notre site internet le www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.